Oui, bonjour, c'est Paroles de Crise, une émission de la crise chaque dernier vendredi du mois, de 15 à 16 heures. Elle est présentée par Christiane et Didier. La crise, c'est quoi? La coordination révoltée des invisibles solidaires enragés, au féminin et au masculin, bien sûr.
Salope pauvre.
Eh bien, bonjour, eh bien, c'est Paroles de Crise, l'émission de tous les cafards de... Tout d'abord, on va être obligé de mettre du féminin tout au long de l'émission. Vous allez comprendre pourquoi, puisque nous allons parler tout à l'heure, notamment de la précarité et chômage au féminin, notamment avec toutes ses conséquences. Nous avons aussi, eh bien, ça sera notre fil conducteur, notre fil rouge un petit peu, c'est Ariel. Ariel, bien qui est l'animatrice principale, notamment de Radio Caraïbes Nancy. Bonjour Ariel, tout d'abord.
Bonjour, bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Oui, je suis animatrice, pas principale. Disons que je m'occupe peut-être principalement de l'antenne de RCN. Voilà, mais d'accord. Je suis une animatrice parmi tant d'autres.
Oui, on se connaît un petit peu et là, on inverse un petit peu les rôles. C'est-à-dire, c'est toi qui es notre
Je ne savais
invité.
Pas que je faisais partie du fil rouge, mais enchantée.
Eh oui, mais
c'est une couleur que j'aime bien, le rouge.
Ah, bah en plus, avec un petit peu de noir aussi.
Eh bah, rouge et noir, bien entendu.
Merci. Eh bien, ça nous permettra de parler également de précarité, notamment précarité bien d'institutions. Précarité également d'instruments de communication que sont les radios. Eh bien, on en parlera aussi tout à l'heure avec notamment Ariane. Eh bien, en petit billet d'humeur, je crois que Christiane, ben tiens, tu vas pouvoir nous le dire également. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont passées depuis un mois.
Oui, j'ai un nouvel ami qui s'appelle Manuel Valls, par exemple, lui, qui s'occupe. Puisque je suis j'étais fonctionnaire plutôt, qui s'occupe de moi, de ma retraite. Et voilà, donc tout baigne.
Eh oui, ça fait partie un petit peu de ce billet d'humeur que je voulais faire un petit peu. C'est vrai que ça a valsé, effectivement, dans le gouvernement, c'est vrai. Donc, par contre, il y a eu un remaniement, mais bon, le changement, c'est pas pour tout de suite, c'est certain. On a notamment un ministre du Travail, parce que ça nous concerne, ça vous concerne, vous, les cafards, ça vous concerne, vous, les chômeurs, ça vous concerne, vous, les précaires, ça vous concerne, vous, les intermittents. Les intermittents, ben, on va en reparler, parce que ben, on a bougé aussi avec eux pendant tout ce mois-ci. On a un nouveau, ministre du Travail. Enfin bon, ministre du Travail, de l'Emploi, du Dialogue Social, paraît-il. C'est monsieur François Rebsamen, qui est également maire de Dijon. Et ce monsieur qui maintenant au PS était passé à la Ligue Communiste Révolutionnaire il y a quelques années. Et ce monsieur bien, est arrivé, vous vous rappelez sur, certainement de la courbe, de l'inversion, de la courbe du chômage notamment, qui a été clamée et réclamée. Mais voilà, bien lui, il se dit tout simplement, toute la politique gouvernementale est axée sur un objectif simple et compréhensible. Pour tous, à la fin de l'année 2014, il faudra qu'il y ait moins de chômeurs. Moi, je trouve qu'ils sont comiques, tous ces gens. Et puis, je vais vous dire une information, un grand scoop qu'il nous a lancé aussi ce monsieur, nouveau ministre du Travail et de l'Emploi. Je vais vous dire quelque chose, dit-il dans une déclaration. Michel Sapin a laissé un tube de Barane, une marque de cirage, au pied du bureau. Je cire moi-même mes chaussures. Ah, voilà un scoop qui va vous intéresser, à vous tous, les chômeurs, les précaires, encore faudrait-il que vous ayez encore des chaussures. Ça, c'est un fait. Alors, pour revenir un petit peu dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on voit bien un chômage qui explose, mais derrière le chômage, il y a surtout une précarité qui explose. Et puis, bien, je vais vous juste, on demande effectivement à tous de trouver un emploi et aux entreprises d'en créer. Alors, il y a un monsieur, donc, qui est loin d'être un révolutionnaire, donc c'est un économiste et anthropologue qui s'appelle Monsieur Paul Jorion, et bien qui sort quelque chose et il dit la chose suivante. Il est demandé à chacun de trouver un emploi et aux entreprises de créer les emplois que chacun occupera. Mais voilà la manière classique dont on envisage les choses. Mais l'évolution du marché du travail ne devrait-elle pas nous conduire à modifier notre manière de voir? Et ce monsieur va un petit peu plus loin et il dit qu'en septembre 2013, deux chercheurs de l'université en Angleterre ont, dans un rapport, estimé que 47% de la force du travail occupe un emploi qui sera remplacé à terme par les ordinateurs. Alors, par exemple, il cite également un exemple sur les marchés boursiers, par exemple les traders, vous savez, tous ceux, les rats en tout cas, à l'intérieur, quoi qu'ils vous piquent, quoi, tout le fric qui devrait vous revenir, sont déjà remplacés par des logiciels appelés Algos dans 60% des transactions. Alors, même où va-t-on, même les traders ne pourront même plus faire du blé sur notre compte d'une façon directe. Voilà, on va les retrouver avec nous dans la crise, puisqu'au chômage. Bref, or, il dit, la grande majorité de la population obtient traditionnellement de son travail les revenus qu'assure sa subsistance. La question de l'emploi doit donc être radicalement repensée dans le contexte nouvellement apparu. Et un peu plus loin, il dit qu'il faut tirer les conséquences du scénario mis en place. Les revenus des ménages vont devoir être dissociés de la force du travail que ses membres représentent. Et c'est quelque chose, en fin de compte, qu'on annonce depuis très longtemps, c'est-à-dire le partage effectivement du temps de travail, mais surtout le partage des richesses que le travail eh bien, procure. Alors ce travail maintenant, eh bien, c'est une bonne nouvelle, en tout cas si on peut être libéré du travail pour aller sur quelque chose qui s'appelle la vie, en fin de compte l'existence. Et je vais vous dire aussi quelque chose, c'était pas nouveau. Bien avant Marx, il y avait un monsieur qui s'appelait Sismondi qui avait déjà proposé que le travailleur qui était remplacé par une machine obtienne une rente perçue sur la richesse que celle-ci procure. Eh bien voilà, c'est tout. Et je vous assure, c'est pas des révolutionnaires ces gens-là, c'était des libéraux. Oui Maya, vas-y.
Oui, par rapport à justement l'ordinateur, les machines, l'objectif c'est justement d'avoir moins de travail, d'avoir besoin de travailler moins longtemps pour pouvoir dégager du temps, pour faire autre chose, pour vivre. Le problème c'est la répartition des richesses. Et qu'effectivement on pourrait imaginer qu'on travaille moins, et c'est le cas, mais non, le problème c'est la répartition des richesses qui n'est pas assurée derrière.
Tout à fait. Et c'est là que je voulais aussi... Tu as tout à fait raison. Je voulais aussi faire un petit parallèle avec les mobilisations que nous avons en ce moment. Puis ceux qui concernent, on va vous appeler d'ailleurs, vous, les chômeurs, les intermittents, les intérimaires, les précaires, les RSA, c'est bien à nous rejoindre sur ces mobilisations qui concernent l'allocation, en fin de compte, chômage, puisque des gens décident à notre place de ce qui est bon pour nous. Et on est en train de nous faire croire dans cette nouvelle négociation qui, entre autres, devait se finaliser le 29, mais qui est reportée par le patronat, notamment le MEDEF et le bureau de l'UNEDIC, au 13 mai maintenant, on n'arrête pas de reculer, voilà, c'est tout. Alors, dans cette convention qui vous intéresse, en tout cas, il vous disait demander à vous chômeurs qui avez payé vos allocations chômage, donc qui avez payé vos cotisations, de rembourser une dette, en fin de compte, qui n'est pas la vôtre. Et sachant que là-dedans, en fin de compte, le patronat ne met pas un centime à la poche. Donc, il y a un petit problème. Deuxièmement, on nous a fait croire, et monsieur notamment Rebsamen, ministre du travail est tout à fait sur cette logique-là, avec, on appelle ça, les droits rechargeables. Les droits rechargeables, bien, c'est une ouverture à la précarité davantage. C'est remplacer, en fin de compte, ce qui est un revenu, notamment de remplacement, par juste des miettes d'une certaine allocation, en fin de compte, qui va être du même type que le RSA d'activité, c'est-à-dire, vous allez accepter des boulots de merde, des boulots d'une heure, des boulots d'une journée, et puis, on vous fait croire, eh bien, que vous allez avoir plein de droits. Non, c'est le patronat qui va l'avoir. C'est d'avoir une main-d'œuvre notamment flexible, une main-d'œuvre bien à leur portée. Ça existe déjà au Royaume-Uni, ça existe en Allemagne, notamment avec des emplois rémunérés à 2 euros de l'heure, par exemple. Voilà. Alors, concernant donc cette négociation convention UNEDIC, des mobilisations ont lieu partout, notamment partout en France et ici, notamment à Nancy, avec intermittents, avec intérimaires, avec chômeurs, avec précaires. Et pour revenir à notre ministre, notamment du travail. Il est également maire de Dijon, un endroit où notamment un intermittent est actuellement en grève de la faim depuis plus de 40 jours. Voilà. Et je vais vous simplement, et on terminera par là, vous citer simplement ce que dit cet intermittent. Donc l'intermittent, on en a déjà parlé ici même, ce ne sont pas des feignants, ce ne sont pas des privilégiés, ce sont des gens qui bossent. Et nous sommes d'ailleurs tous des intermittents, intermittents de la vie, intermittents de l'existence. Alors voilà ce que dit notamment cette personne qui actuellement est en grève de la faim dans la ville, effectivement, de notre ministre du Travail. D'ailleurs, les intermittents ont occupé sa mairie. Ils ont eu tout à fait raison. Et voilà ce qu'il dit. Il interpelle, en fin de compte, tous ceux qui pensent qu'ils sont des privilégiés, tous ceux qui ne veulent pas descendre dans les rues ou se mobiliser. Et il dit tout simplement, est-ce que c'est sale de mettre les mains dans le cambouis des droits sociaux? C'est parce que vous avez la trouille de rencontrer dans la même unité de temps et de lieu vos semblables si différents, qu'ils soient intérimaires, chômeurs, travailleurs pauvres ou sans papier au bout du rouleau ? Voilà la question que pose Franck Halimi, actuellement en grève de la faim, que je vais voir notamment dans une ce week-end à Paris, qui sera présent lors d'une coordination nationale de tous les collectifs qui luttent actuellement. Alors, eh bien, chômeurs, précaires, cafards, bien vous qui êtes toujours dans la résignation, bien sorcés, il faut en sortir de cela. Et plus on sera ensemble, notre slogan c'est agir plutôt que subir, et je pense qu'il faut vraiment le faire, et c'est une urgence. Alors on vous invite d'ores et déjà à nous rejoindre mardi, place Maginot, notamment à partir de 10h, pour un village qui va nous appartenir, que nous allons organiser par nous-mêmes. Et puis demain, ça sera aussi la journée de la patate, hein. C'est-à-dire on vous invite d'ailleurs à amener vos pommes de terre, et vous verrez, on en fera quelque chose dans toute la journée. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite par avance un très bon mois, je vous souhaite également par contre plein de luttes, surtout, et la route à nous, reprenons-la.
Ça fait 20 ans qu'on nous explique, la lutte de classe s'est dépassée. Qu'au nom de la guerre économique, pauvres et riches doivent collaborer. La droite, la gauche capitaliste ont ouvert la voie aux fascistes. Alors ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime, qui peut rêver du RMI, même si certains estiment que c'est bien trop, que ça suffit. Que celui qui n'a pas d'emploi n'a qu'à se contenter de ça.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec le sang, œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime lorsque personne n'intervient, que la peur entre tes voisins t'encaisse les coups dans ta cuisine. Tes gosses dans la cage d'escalier, au moins ils te voient pas pleurer.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. La gauche, la droite avait promis, tu les as cru, ils t'ont trahi. Maillon faible qu'on élimine. Au bistrot, tu rêves de vengeance, tu bois contre l'indifférence.
Ne te trompe pas de colère, et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime quand tous les jours à la télé, les patrons se pavanent et criment, disant qu'il faut se résigner. Car à la bourse, c'est la crise, faut sacrifier pour l'entreprise.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec le sang, œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime quand même avec des airs de fête, la grève se transforme en défaite et la précarité te guette.
Mais quand tu veux manifester, les flics protègent les bons quartiers.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime, mais pense à ton copain Karim, avec qui tu te prends la gueule, celui dont tu dis que c'est le seul. Qu'avec lui ce n'est pas pareil, que ce mec-là c'est une merveille.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime, la télé t'a terrorisé, dans ton esprit sont mélangés New York, l'Angleterre, la Palestine. En confondant peur et courage, dans les eaux noires tu te soulages.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Pas question de nouvelle idée.
Ne te trompe pas de colère,
c'était avant-hier.
Et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans, elle devait.
N'y plus pas.
Aïe, mais méfie-toi des milliardaires.
Je suis pas un milliardaire.
Un Chirac sans homme d'affaires,
ça lui devait. Oui, méfie-toi des milliardaires.
Maintenant des prolétaires.
Ça ne te trompe pas de colère.
Oui, je lui sais.
Et méfie-toi des milliardaires.
Misère, misère.
Eh bien, nous sommes toujours, bien sûr, Radio Caraïbes Nancy 90.7, une radio qu'il convient également de préserver, n'est-ce pas, Ariel ?
Oui, bah, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Précaire, on va l'être si ça continue. D'ailleurs, nous sommes une radio précaire, hein, on peut le dire, comme toutes les radios associatives en ce moment. Hein. Bon, ça a toujours été, mais je veux dire, en ce moment, les radios associatives sont vraiment très, très précaires. Alors, je crois que sur les. On nous annonce tout le temps qu'il y a 500 radios en France dans les dom-toms. À mon avis, il y en a certainement plus 500. C'est pas possible. Ça crève sans rien dire. Et là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Faut gueuler. Faut crier. Faut Absolument. Manifester. Crevez pas tout seul dans votre coin. Ça sert à rien. En plus, ça vous fait du mal. C'est des colères entrées. Il faut expulser, il faut gueuler. Et quand tu gueules, quand tu manifestes, si c'est très bien, bah, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Tu te fais entendre. Et ils n'aiment pas ça. Hein. Ils n'aiment pas ça du tout. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, cette radio, effectivement, qui est mal en point, comme beaucoup, mais puisqu'on parle de RCN, on en attend beaucoup. On attend beaucoup des politiques qui nous s'y tiennent. Il faut le dire quand même, comme ils le peuvent. L'argent est rare aussi. Ils ont des enveloppes. Bon, ben, selon les enveloppes, voilà. Mais... on attend beaucoup aussi des auditeurs. Donc, dans une semaine, il va y avoir des appels aux dons. Donc, il va y avoir une bande-annonce qui va passer je ne sais combien de fois par jour. Ce qu'on a fait en 2008. En 2008, on était déjà mal en point. Bon, on a réussi à se ressaisir. On va faire exactement le même genre d'action. Donc, appel aux dons pour survivre encore un peu, en attendant que ça s'arrange un peu pour nous. Mais c'est, pour toutes les radios associatives, c'est un réel combat. Donc nous également, si on gueule pas, si on fait rien, ça se passera comme ça, tranquille, quoi, hein. Et on sait que les gens qui nous écoutent tiennent beaucoup à cette radio. Voilà, parce qu'elle ressemble à rien de ce qu'ils ont pu écouter, sauf s'ils sont nés dans les périodes des radios libres, ils s'en souviennent, et ça ressemble beaucoup à ça. Oui, la précarité, de toute façon, oui, cette radio fait partie. C'est une précaire, puisque la radio est axée sur la féminisation. Oui. Cette radio, la radio, c'est une féminine, et elle est précaire, et il faut la sauver. Voilà. Alors, tu ne me laisses pas parler de la radio, parce que là, vous êtes partie pendant plus d'une heure.
Hein. Oui, surtout qu'on a aussi des... Surtout également que nous avons quand même des invités, notamment.
Oui, bien sûr.
Voilà. Juste pour dire une chose, on a un petit slogan en ce moment également, c'est tout ce que nous avons obtenu ou obtiendrons, c'est par la lutte.
Ah bah complètement.
Voilà. Voilà. Alors, eh bien, cette émission, on l'a voulu en tout cas, on a voulu qu'elle soit axée effectivement sur le chômage et la précarité, notamment des femmes, et surtout toutes leurs conséquences. Alors, c'est pour ça qu'on a invité notamment Maya, qui est du collectif Debout. On se connaît très bien. On partage les mêmes locaux, notamment le même lieu en tout cas. Bonjour Maya, donc.
Bonjour. Oui, le centre culturel autogéré de Nancy, qui est précaire aussi.
Voilà. Et vous animez également, vous, le collectif Debout, une émission également sur aussi cette même radio.
Oui, tous les deuxièmes vendredis du mois, donc une émission Debout. Donc collectif Debout, collectif féministe, nancéen et mixte, qui existe depuis 4 ans et qui parle de toutes les situations des femmes.
D'accord. Nous aurons tout à l'heure une personne qui va arriver, puisque bien, je le disais, c'est une presque intermittente, puisqu'elle n'a pas assez d'heures pour avoir tout son statut, donc elle va arriver un petit peu en retard, simplement parce qu'elle travaillait ce matin, et comme je le disais tout à l'heure, même les intermittents, ça travaille. Voilà, donc le thème c'est effectivement la précarité, je pense que Christiane aussi, toi ça te parle aussi.
Enfin, oui, moi j'ai participé à une émission de Debout avec Maya et les autres filles, là. Donc sur la précarité, en fait, dans la recherche publique, c'est quelque chose qui est tout à fait méconnu, je pense, hein, parce qu'on se dit, ouais, ils sont chercheurs, ils sont ingénieurs, ils sont, etc. Ils ont le cul bordé de nouilles. Et je pense que Maya, tu peux aussi témoigner que les situations sont parfois d'une grande précarité, extrêmement difficile.
Oui, c'est assez généralisé. Moi, je peux vous parler de mon expérience. Donc, moi, après mes études, donc 5 ans d'études, j'ai travaillé 2 mois. Ensuite, pendant 2 mois, rien. Voilà, rien, pas de revenus, rien. Ensuite, ils m'ont réembauchée pendant 2 mois. Et ensuite, pendant 6 mois, rien. Ensuite, ils m'ont réembauchée pendant 1 an. Renouvelable, 1 an. Ensuite, j'ai de nouveau une période de chômage. J'ai été réembauchée 1 an, renouvelée 1 an. Enfin, voilà. On est toujours dans ce type de contrat où y a beaucoup de CDD. Et
on va en parler un petit peu parce que justement c'est la question que j'allais vous poser pour introduire un petit peu le truc, Maya. Je rappelle également, Maya, que tu as été aussi à l'origine aussi dans la crise aussi.
Oui, voilà, oui, oui, la grève des chômeurs.
Et voilà, et que tu as participé également aux actions que nous avions donc menées. Voilà, c'était en 2010, je le rappelle. Voilà. Ah oui, voilà. On assiste aujourd'hui, par exemple, quand on regarde les chiffres du chômage, par exemple, on nous dit oui, mais si vous regardez bien, en fin de compte, les chiffres qui concernent le chômage des femmes est inférieur. Et voilà, il est quelque peu inférieur à celui des hommes. Or, il y a quelque chose quand même qui est à noter. Pourquoi il est inférieur, justement? Parce que, justement, il y a autre chose derrière. Il y a la précarité, justement. Et cette précarité des femmes, elle est très importante également, et notamment à travers notamment le temps partiel. Voilà le pourquoi. Et effectivement, il y a un taux de chômage des femmes qui est un petit peu inférieur à celui des hommes, mais en fin de compte, derrière se cache quelque chose qui est cette précarité.
190 000 femmes quand même qui touchent le RSA.
Oh oui, voilà. Et ça, on va en parler un petit peu avec le RSA, parce que là, il y a une entourloupe avec la question du RSA, ouais, et qui touche le féminisme notamment. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous dit, ça, quand on vous dit, par exemple, voilà, le taux de chômage des femmes est inférieur à celui des hommes?
Bah, de qu'est-ce qu'on compte et de qui on parle.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'un travail aussi? Je vois, par exemple, sur tout ce qui est travail à la personne, ben voilà, c'est parfois travailler 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Donc, dans ce cas-là, j'imagine qu'on n'est pas compté dans les chiffres du chômage.
Absolument. Absolument.
Alors, et dans ces cas-là, les frais de déplacement, puisqu'il faut se déplacer pour aller chez les personnes, sont à la charge du travailleur. Et ben, dans ces emplois-là, c'est souvent des travailleuses, puisqu'on considère que ce sont des métiers de femmes, alors qu'il n'y a pas de métier de femme ou de métier d'homme.
Mmh, merci. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Et je crois que...
Il y a aussi énormément de préjugés sur le travail des femmes, par exemple. Moi, j'ai entendu beaucoup dire, bon, elles ont un mari, c'est de l'argent de poche. Il y a aussi cette notion-là de petit boulot secondaire. Donc, on se préoccupe moins des situations de difficultés au travail ou de droit, tout simplement.
Et ça remet en cause vraiment l'autonomie des femmes aussi, où on entend de nouveau des discours tels que bon bah s'il faut choisir, il y a pas de boulot pour tout le monde. Dans ce cas-là, la femme reste à la maison et puis voilà, c'est normal. Donc on se retrouve avec des discours d'extrême droite qui sont qui de plus en plus décomplexés et un retour en arrière face à l'autonomie des femmes. Qui ont besoin d'un revenu à part entière en tant que personne.
Je rappelle quand même que, je dis ça aussi pour les hommes, hein, parce que là, il y a le collectif Debout. Moi, j'aimerais dire aux mecs, Debout les mecs, quoi, un petit peu, hein, ça serait peut-être bien qu'ils comprennent quelque chose. Et surtout, d'ailleurs, pour ceux qui disent « je milite », la lutte pour l'égalité, en tout cas, elle est nécessaire dans la lutte contre le capitalisme et l'ultralibéralisme. Les femmes sont les premières victimes, en fin de compte, de ce qu'on a appelé les crises. Premières victimes du système avec le chômage, la précarité, et notamment avec un travail qui n'est pas reconnu chez eux, chez elles, c'est le travail domestique.
Oui, le travail invisible,
voilà,
qui n'est pas payé. Voilà, tout travail mérite salaire et pourtant, quand on paye quelqu'un pour faire le ménage, pour s'occuper des enfants, etc., on les paye, mais quand il s'agit de travail au foyer, dans ce cas-là, on considère que non, ça n'a pas à être payé, c'est gratuit. Tout ça, c'est du travail qui n'est pas rémunéré.
Eh oui.
Je crois qu'on peut faire aussi de la prévention de la précarité en luttant sans relâche dès plus jeune âge entre garçons et filles, l'éducation entre garçons et filles. Les mamans font beaucoup de mal aussi. Hein. J'en fais partie parce que je suis maman aussi. De donner des armes à leurs filles, à leurs garçons aussi, mais à leurs filles. Parce que tu peux très bien être précaire dans la vie et quand même y arriver et quand même vivre et être content de ta vie. Parce que justement, tu sais lutter avec ce qu'on t'a donné. C'est ça aussi le problème, c'est toute une éducation. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est facile de se retrouver avec même pas 900 euros par mois. Mais je veux dire, il y a aussi des façons... La preuve, vous êtes à l'antenne aujourd'hui, c'est que vous représentez une force qui bouge. On peut aller vous voir, il y a des solutions.
Absolument.
Donc jamais baisser les bras.
Oui.
Alors vous allez me dire, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire. Je peux me permettre de le dire car j'ai vécu des périodes comme ça. Voilà. Et parce que bien informée, parce que j'allais voir les gens qui allaient bien, il faut aller vers les associations, bon sang. Il y a sur ce quartier du Lièvre, entre autres, mais c'est un plan national, il y a les femmes relais. C'est des femmes qui sont là justement pour parler avec vous, pour vous donner des réponses à vos questions, pour vous envoyer sur... Il ne faut pas rester seul. Ça, c'est un très, très mauvais plan. Et après, si vous faire des ménages parce qu'on sait faire autre chose, on fait ça. Mais en attendant, tu bouges, en attendant, tu avances. Voilà. Ça, moi, c'est ma façon de vivre. C'est ça. Mais ça ne sert à rien de chialer. Ça ne sert à rien de dire, qu'est-ce qu'on va faire ? Purée, tu te lèves, femme debout. Et t'avances. Mm-hmm. T'avances parce qu'il y a moult associations qui sont là. On est sur le... Je me mets en colère des fois parce que j'en ai marre d'entendre ça. Je suis une femme qui est toujours en colère. Donc, ma colère, tout le monde, les auditeurs ont l'habitude d'entendre. Il ne se passe jamais rien. Il n'y a jamais rien pour nous. Bon, alors, vous n'écoutez peut-être pas les bonnes radios, peut-être pas les bonnes émissions. Mais bon Dieu, rien que sur le plateau de Haye. Donc là, pour les auditeurs qui nous écoutent sur Internet, ce sont des gros quartiers dissensibles. Plateau de Haye, c'est 3 communes, Nancy, Laxou, Maxivy. Il y a moult associations qui sont là pour aider les enfants, qui sont là pour aider les parents. Et j'ai eu en émission une maman qui est venue témoigner justement du travail qu'elle faisait avec Jérôme Bourré, coordinateur de la réussite scolaire à Laxou. Mais c'est incroyable! Ça n'a pas pris 6 mois, ça a pris 2-3 ans pour cette femme qui, justement, était la mainmise, femme à la maison. Il l'a fait sortir de là. Et maintenant, elle vient témoigner. Alors, faut bouger. Bien sûr, c'est difficile, hein. Mais il y a des plans. Il y a des plans bouffe, il y a des plans fringues. Bon, les plans logement, c'est un peu plus délicat, on le sait bien. Hein.
Mais on y arrive quand même.
Hein, on y arrive quand même.
Oui.
Et vous êtes là, vous, dans vos émissions, pour donner l'espoir, justement.
Oui.
Et plus il y aura de femmes qui témoigneront en disant « Moi, j'y arrive parce que j'ai des plans. » Et parce que sur des quartiers comme ça, quand il y en a une qui crève la dalle, eh ben, on se réunit et on prépare une grosse bouffe et on va lui en donner. Mmh. On va au marché du coin. Tous les dimanches, il y a un marché. On achète des cagettes de fruits et légumes que le commerçant ne pourra pas vendre. Et on distribue aux alentours. Il faut savoir que ça existe. Donc, on ne chiale pas.
Agir plutôt que
agir, purée. Toujours.
Et agir ensemble plutôt que rester seul aussi.
Surtout ensemble. Surtout ensemble.
Il n'y a rien de pire dans le chômage et la précarité, effectivement, c'est la solitude et c'est l'isolement. Mmh. Et notre objectif, il est là également, c'est de faire sortir justement de l'isolement et retrouver quelque chose qui s'appelle la solidarité collective. Voilà. Je voulais revenir à ce qui avait été évoqué tout à l'heure, c'est sur ce travail notamment des femmes à la maison. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'a aucune valeur, même d'ailleurs financière. Alors, moi je pose la question déjà en tant que mec, moi ça me choque moi-même, parce que je me dis par exemple une femme qui va élaborer un repas par exemple, chez elle, donc la même personne, donc son repas est considéré comme ne valant en rien, ne valant que dalle, alors que la même personne qui va aller servir dans un resto, par exemple, quel qu'il soit, et souvent des restos de merde, on dit que là il y a une valeur. Donc alors moi je pose la question que si le travail des femmes à la maison ne vaut rien, pourquoi le travail qu'elles effectuent à l'extérieur vaut quelque chose? Voilà.
Parce qu'elle ramène de l'argent.
Voilà, tout à fait.
Bah, oui.
On est toujours dans le business, dans un système. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, je veux dire aux mecs et, également de prendre ça peut-être en considération. Ceci étant,
les femmes à la maison, quand elles font le choix d'élever leurs enfants, faire la bouffe et tout. Je fais partie des deux, moi. Celles qui bossent, celles qui sont heureuses chez elles en faisant de la bouffe et en faisant son ménage. Tu vois, c'est ça aussi. Il ne faut pas mettre tout le monde dans la même case. Mais il faut respecter ceux qui sont mal dans ces cases-là aussi. Moi, je ne me sens pas discriminée parce que j'aime être chez moi, parce que j'ai élevé 3 gamins. Parce que tu sais, vous savez pourquoi, chers auditeurs? Parce que je l'ai voulu. On ne m'a rien imposé. Ouais. C'est ça le truc. C'est ça. J'ai voulu des enfants, j'ai eu des enfants. Je vais me faire à manger pour les autres, je vais faire à manger. Mais jamais qu'on me demande de le faire par obligation. Voilà. Donc cette grande chance aussi d'avoir ce caractère-là,
c'est
aussi.
Ça, c'est ça la liberté.
Mais entendez ça, c'est très important.
La liberté, c'est avoir la possibilité de soi.
Ouais.
Alors bien, on a Isa aussi qui vient de nous rejoindre voilà, dans le studio. Isa, également collectif Debout. Bonjour Isa.
Salut à toutes et à tous.
Alors tu fais partie de ces femmes qui travaillent, donc c'est pour ça que tu arrives maintenant.
C'est exactement ça, le temps de trajet.
D'accord, mais on est rentré, excuse-nous, mais dans le vif un petit peu du sujet. Moi, je voulais également évoquer dans la notion. Je t'en prie, vas-y.
Parce que du coup, je ne sais pas si vous l'avez déjà abordé. Je suis désolé, j'arrive comme une fleur. Mais ça, c'est super important, la reconnaissance du travail domestique. C'est la question. Pourquoi, en effet, cette absence de reconnaissance? Parce que ce travail domestique qui est produit dans un système patriarcal est avant tout à l'avantage, souvent, d'un homme. On a encore cette expression du bon chef de famille.
Oui.
Et donc, forcément, et là, il y a vraiment un énorme poids économique autour de ça.
Oui, oui.
C'est évidemment, à partir du moment où ça passe sur le marché, ça devient une valeur marchande. Mais à partir du moment où c'est réservé à la sphère privée, ça reste totalement inconnu, non évalué, enfin tout ça.
Moi, j'ai rebondi aussi là-dessus, justement. Ça fait une très bonne introduction à ce deuxième point que je voulais noter, ça concerne le RSA. Le RMI, quand il avait été créé en 1989, a permis notamment à certaines femmes de pouvoir se libérer, notamment du carcan, effectivement, mal. Mal. Voilà. Je précise, même si c'était pas, même si le niveau du RMI quoi n'était pas élevé, mais il a permis cette liberté. Concernant le RSA, ça a changé beaucoup de choses. En fait, on suppose notamment, par exemple, quand il y a un couple, que les gens mettent en commun notamment les ressources et qu'ils soient solidaires les uns des autres. Or, le RSA, qui fait partie notamment des allocations familiales, c'est-à-dire qui relève de la famille. Hein, de ce fait, quand il y a deux personnes, c'est pas la femme en tant que elle qui est éligible au RSA, mais c'est le foyer, le couple, et en particulier l'homme. C'est important à noter. Alors, le RSA, normalement, il doit articuler quelque chose, c'est les revenus issus de la solidarité et ceux du travail. Et on lit toujours ça à l'emploi. Et puis, alors, moi, je dis simplement que chacun sait que l'emploi et l'insertion professionnelle sont des questions qui concernent l'individu, mais pas la famille. Voilà. Pourtant, eh bien, on lit dans la plupart des travaux sur les RSA nombre d'heures de travail dans le couple ou bien revenus d'activité du couple sans s'inquiéter de savoir qui travaille et combien de temps et sans s'inquiéter également de ce travail à la maison. Voilà. Alors, est-ce l'homme, la femme ou les deux, combien de temps chacun pour quel salaire? Moi, c'est moi en tant qu'homme qui pose cette question et en tant également que militant.
Alors, réponds, toi, justement.
Non, je n'ai pas envie de répondre. J'ai pas envie que ce soit moi qui
réponde. Ah bah mince, ça a l'air d'être toujours.
J'ai pas envie que ce soit moi qui réponde.
C'est pour cette raison qu'on demande que, justement, les droits aux revenus soient calculés en fonction de l'individu et pas de ce qu'on appelle la famille. On se retrouve aussi avec des cas, par exemple, par rapport à la CAF et la PL. Des personnes qui vivent en colocation vont avoir un revenu calculé séparément. Des personnes qui vont vivre en couple vont avoir un revenu qui est calculé donc sur la base des deux personnes. Donc déjà, de quel droit la CAF se permet d'aller voir qui couche avec qui dans un logement? Première question. Et deuxième question, c'est vraiment clairement injuste aussi de considérer différemment les personnes... Selon leur mode de vie.
Alors moi, je vais aller directement au cœur du problème d'après moi. C'est la notion du couple, de la famille. Le RSA, comme beaucoup de prestations, donc c'est ce qu'on appelle des prestations familialisées. Donc ça porte très très bien son terme. Et en effet, on considère que la solidarité, ou du moins nos vies dépendent de plusieurs sphères comme ça. Et donc la famille aujourd'hui devient de plus en plus La sphère de référence, puisque toutes les autres institutions ont tendance à plutôt se rétrécir de plus en plus. Et c'est là où j'ai entendu juste ta dernière intervention, mais c'est là où il est important de rappeler l'importance de la solidarité pour ne pas laisser n'importe quel individu enfermé, que ce soit dans un couple, dans une famille, et dépendant d'autres institutions.
Absolument. Christiane ?
Oui, moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent seules, parce que là on parle de famille, mais il y a aussi beaucoup de familles monoparentales, c'est comme ça qu'on
dit. C'est
quoi,
ça
a été mon cas, moi j'ai élevé ma fille sans mâle à la maison. Et donc, il m'arrive aussi de faire grève du ménage et de la cuisine, mais ça n'engage que moi, quoi, en fait, puisque après, quand j'ai faim, de toute façon, je retourne au fourneau.
Oui, moi, ça me semble important que quand tu parles des encore une fois, on ne parle pas de personnes, on parle souvent de famille monoparentale. Et ça aussi, les mots sont très importants. On est encore, effectivement, dans une société vraiment marquée par le patriarcat, justement, outrancier, et cette bonne famille, voilà. Travail. Bon, on ne le citera pas parce que ça me donne envie de gerber. Excusez-moi. Voilà. On est dans cette logique, et ici même, on avait reçu d'ailleurs des personnes, notamment des femmes, qui étaient sur la même émission, notamment dans cette situation de monoparentalité, et des femmes qui se retrouvaient en précarité du fait de violences, donc faites aux femmes à la maison. On a reçu, je me souviens de Marie par exemple, qui était venue et qu'on a dû accompagner notamment. C'est quelque chose qui moi me choque, et où j'ai été encore plus choqué, c'est quand on a poussé les portes notamment à l'office HLM pour Marie notamment, et qu'on lui a, et c'était carrément un interrogatoire pour sa vie privée. sur sa vie privée. Moi, personnellement, j'ai dû pas taper vraiment du poing sur la table pour arrêter ça. C'est son problème, c'était pas sa vie privée. Son problème, c'est un problème de société, voilà. Elle s'était fait expulser d'un logement. Moi, le problème, il était là, qu'elle soit femme ou homme. Je suis pas sûr qu'on ait posé les mêmes questions à un homme que à cette femme-là. Bah, je sais pas si vous avez des exemples là-dessus, en fin de compte, sur ces questions également de femmes avec enfants, seules.
Il existe des foyers d'accueil en cas d'urgence ou non. Vous avez la liste sur notre site internet collectif-debout.org et bien sûr les moyens qui sont donnés à ces foyers d'accueil diminuent comme partout ailleurs. Et c'est un grave problème justement quand on est dépendant économiquement d'un mari violent. C'est une double violence aussi. Moi, je voulais vous parler aussi des personnes qui n'ont pas accès au RSA, et notamment les étudiantes.
Oui.
Et il y a des choses quand même assez ignobles qui se développent concernant l'accès au logement, où on voit de plus en plus d'offres donc de propriétaires qui proposent une chambre pour une jeune étudiante en échange de services. Ces services...
Quel service ?
Oui, quel voilà. service d'abord, oui.
Alors, par exemple, alors un peu d'aide au ménage et 3-4 rapports par semaine.
Ah bah, je vois là.
Pardon ?
Voilà, les rapports sexuels.
Ah, bah oui,
une
bah
fellation
voilà,
par semaine ne suffit pas.
Oui.
Ah.
Donc, on se retrouve avec des propriétaires qui exploitent la crise du logement,
c'est plus
les situations de précarité de ces jeunes étudiantes qui n'ont pas accès au RSA parce qu'elles ont moins de 25 ans. Et justement, on se retrouve avec des situations comme ça vraiment horribles.
Il y a de la régression dans le chez les femmes. Hein. Vraiment de la régression.
Ah, oui.
On prend les familles monoparentales parce que c'est elles qui tirent le diable par la queue avec tous les efforts qu'elles peuvent faire. T'as encore des femmes qui sont obligées de vendre leur corps pour joindre les deux bouts. C'est une régression.
Oui, c'est une régression.
Ou peut-être pire pour moi que de vendre son cul, c'est d'être obligée de vivre avec quelqu'un. Parce que, voilà,
oui.
Et ça c'est pire, enfin ce qui me concerne, ça ne regarde que moi cette fois-ci.
Et moi par rapport à une famille monoparentale, du coup famille parce qu'enfant, moi ce qui me choque c'est le coût aujourd'hui pour la prise en charge d'un enfant.
Oui, oui.
C'est ça qui est phénoménal, ce qui impose, enfin ce qui amène les femmes les plus démunies à ne trouver aucune solution.
Oui.
Je veux dire, il y a des accompagnements de Pôle emploi, à partir du moment où on sait qu'une femme a des enfants en bas âge, on ne lui proposera pas d'accompagnement. Forcément, faut qu'elle reste à la maison pour s'en occuper, puisqu'il n'y a aucun dispositif qui est vraiment là pour proposer systématiquement des activités, des accueils pour ses enfants.
Oui, je fais juste une petite parenthèse.
Oui, parce que ce que je vais dire, c'est intéressant.
Parce qu'on a Nadège qui vient de...
Ouais,
voilà,
ouais.
Parce que je regarde aussi l'heure.
Oui, voilà. Bah oui, 60 minutes, c'est si peu.
Oui.
Vas-y.
Oui, oui, donc il y a Nadège qui vient de nous rejoindre. Enfin, on t'a présenté très succinctement tout à l'heure, mais je disais que tu étais demi-intermittente. Demi-intermittente. Juste, et je disais, tu fais partie de ces demi-intermittentes qui ne sont pas les privilégiées qu'on a annoncées, notamment ces derniers temps.
Oui, bonjour. Effectivement, en fait, moi, je ne suis pas encore au statut d'intermittence parce que je ne fais pas les cachets que j'ai. Et je n'ai pas les 47 cachets encore actuellement qui sont... Mais c'est pas pour longtemps, on sait pas. Et j'ai c'est un statut hyper particulier parce que je cumule plusieurs choses. Donc, je peux pas non plus être intermittente parce que je suis en contrat aidé. Donc, dans ce cas-là, je suis pas inscrite à Pôle emploi. Et j'étais auto-entrepreneur aussi, ce qui a amené pas mal de problèmes, notamment avec la CAF. Et donc, je cumule plusieurs choses. Et avant le contrat aidé, j'étais à la fois auto-entrepreneur, à la fois rémunérée au chômage et à la fois au RSA. Et là, en ce moment, je suis encore au RSA. J'ai des cachets d'intermittence, mais je ne suis pas intermittente. Et je vais le RSA, je l'ai déjà dit. Je vais finir mon statut d'auto-entrepreneur qui me pourrit à fond. Et en même temps, je suis en contrat aidé à 20 heures semaine.
Oui,
c'est ça qu'il fallait que je dise.
je ne sais pas. Non, ça me paraissait très important parce qu'encore une fois, on voit la précarité, justement, ce que c'est. On présente par exemple des gens très privilégiés. Par exemple, tu es comédienne, Nadège. Bon, pour beaucoup de gens, quoi, être comédien, quoi, déjà, c'est pas travailler. D'abord, hein, ça c'est pour beaucoup encore. Deuxièmement, c'est des gens qui doivent gagner du pognon. exemple, hein, qui doivent bien gagner du fric. Voilà. Et l'autre chose, effectivement, maintenant, il y a une société également pour les comédiens, les intermittents, qui pousse à aller justement sur ce statut d'auto-entrepreneur. On a vu les conséquences, par exemple, puisqu'on est, on a dû aller à la CAF, donc avec toi, pour une question d'allocation logement, donc qui, par rapport à ce statut, a été complètement remis en cause. Voilà. C'est, en fin de compte, quelque chose de complètement dingue. Et toi, il y a quelque chose qui est important, c'est que toi, ce que tu fais, tu aimes le faire. C'est-à-dire que toi, tu veux bien travailler, tu veux bien, mais en fin de compte, derrière, ça te fait combien de revenus par mois, à peu près total ?
Bah là, avec mon contrat aidé, je suis à 670 euros.
Privilégié.
Ouais, je suis grave privilégié, ouais. C'est ça. Je suis grave au-dessus du seuil de pauvreté. Et puis après, à côté, j'ai le RSA et je suis à... ça dépend des mois, quoi. Hein, parce que si je fais des cachets, forcément, les trois mois suivants, le RSA va chuter. Et ce qui est hyper compliqué, en fait, dans ce système-là, quand on est précaire comme ça, c'est qu'on est... ce que j'expliquais à la personne de la CAF, notamment, c'est qu'on est en flux tendu tout le temps, en fait. Donc, quand ils nous disent, mais oui, mais ces trois mois-là, vous avez eu pas mal de RSA. Et puis, en plus, vous avez eu des cachets. Donc, c'était cool, vous rouliez sur l'or, quoi. Oui, mais les trois mois suivants, j'ai plus de RSA et moi, mes cachets, ils ont déjà disparu parce que les mois d'avant, je me serrais la ceinture en me disant « Ah non, t'achètes pas de fringues, t'achètes pas de chaussures, machin. » Et là, quand j'en avais un peu plus, les dépenses que j'ai retardées, enfin, que j'ai mises de côté, je les mets à ce moment-là. Et on est en flux tendu tout le temps, donc ouais.
Oui, c'est pour ça, parce que c'était intéressant, parce qu'au début, tout au début de l'émission, on avait parlé notamment de la nécessité de dégager la question du revenu de celle du travail. C'est-à-dire qu'on est nombreux et de plus en plus, d'ailleurs ce week-end sur Paris, cette coordination, on va justement parler également de ce revenu que nous on avait appelé ici à Nancy le roi, revenu oui. Optimal inconditionnel, voilà. je me souviens qu'on avait fait un track. Voilà.
Donc, exigeons le roi.
En tout cas, ça rejoint en tout cas ça, toi, cette notion, parce que comme je disais tout à l'heure, toi tu fais quelque chose que tu as envie de faire. Voilà.
Moi j'ai choisi voilà. Aussi de... Oui, c'est un choix, et dans ce sens, des fois j'ai un peu du mal à... Je vis de ma passion, donc quelque part c'est un choix qui est risqué. Et après on dit la liberté a un prix et c'est souvent le prix le plus cher. Mais c'est un choix que j'ai fait délibéré. J'ai dit moi je veux être libre, je veux pas avoir de patron. Et j'en paye les conséquences. C'est sûr.
Ce que
certain.
Je disais tout à l'heure.
Absolument. Et le pire, enfin là j'ai envie de raconter juste cette anecdote. Le moment où j'avais les problèmes avec la CAF, donc ils m'ont fait une suppression d'APL suite à mon statut d'auto-entrepreneur qui plafonne. Donc ça il faut le savoir quand même. Si auto-entrepreneur on déclare pas un certain nombre de revenus, il plafonne à 14 000 euros. C'est le minimum que tous les auto-entrepreneurs, au bout d'un an, ils ont 14 000 euros de revenus. Moi, j'ai fait environ 7 factures, dont la plus grande facture, c'était 800 euros. Donc, j'ai jamais atteint 14 000 euros par an. Mais ces 14 000 euros de plafond sont obligatoires. Et donc après, ils suppriment les APL. Moi, j'ai plus eu d'APL pendant un an. Enfin, j'aurais plus si Didier n'était pas venu avec moi à la CAF. Merci, encore une fois. Et donc, je vais voir une assistante sociale complètement catastrophée en lui disant « Je peux pas vivre si j'ai pas d'APL. Moi, je touche ça comme revenu. J'ai jamais eu ces 14 000 euros. » Et la dame de la ville, quoi, qui est embauchée par le conseil général, me regarde et me dit « Oui, mais là, franchement, je suis vraiment désolée, mais de façon tout à fait honnête, la meilleure solution pour vous que je peux vous conseiller, c'est démissionner de votre boulot et de revenir au RSA socle.
Voilà.
Elle me propose une solution encore plus précaire que la précarité dans laquelle je suis déjà. Et je lui dis, mais je ne peux pas. Et ce qu'il dit, effectivement, moi, mon travail, je l'aime. Et je le ferai quoi qu'il en soit. Je suis à 20 heures semaine, mais j'en fais 47, 50 des heures par semaine. Je ne les compte même pas. Je ne sais pas à combien je suis par semaine. Mais ça m'a paru tellement aberrant, quoi. Et on tombe dans des choses...
Mais... il est certain que, tout à l'heure on le disait, que la liberté inclut notamment le choix de décider soi-même de sa propre vie. On a parlé notamment de cette saloperie, quoi, qu'est cette convention UNEDIC, dont la signature est reportée maintenant, mais c'est une saloperie parce que justement, elle va à l'encontre de cette liberté. C'est le patronat qui veut imposer avec le système, bien sûr, et avec ce gouvernement, c'est en fin de compte ses choix à lui, et en faisant fi complètement de la liberté de chacun. Or, il faut qu'on se batte justement pour cette liberté, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit avec ou sans papier, parce qu'on les inclut également. Il est nécessaire justement qu'on se batte pour maintenir cette liberté. Il y a quelqu'un qui disait, je crois que c'est Jean-Paul Sartre, que la liberté est une pratique et nous ne sommes libres qu'en luttant pour elle.
Enfin, il faut avoir les bons outils pour être libre.
Voilà, mais tout à fait, oui. Il y en a certains, par contre, qui ont des caisses.
Et ça, c'est votre émission qui peut porter ça, c'est les outils,
entre
justement,
autres,
pour ça.
Une émission également comme ça.
Alors, c'est pas que l'émission, c'est aussi toutes les actions qui sont menées, toutes les manifestations collectives. Et aussi, enfin, là, vraiment, je m'adresse à toutes les personnes qui auraient des soucis avec la CAF, toutes les personnes qui auraient des soucis avec Pôle emploi. C'est d'aller voir la crise, d'aller voir les permanences le jeudi après-midi, 69 rue de Mont-Désert. Et je vous assure qu'il y a énormément de situations qui ont été débloquées simplement parce que c'est un collectif qui vient et ils nous connaissent et ils savent qu'on lâche pas. Et vraiment, on débloque des situations ensemble.
Absolument.
Et surtout, il ne faut pas rester seul. Moi, quand j'ai eu ces problèmes-là avec la CAF, je suis allée voir une amie, c'est une amie commune qui m'a présenté à Didier et qui m'a dit ne reste surtout pas seul parce qu'effectivement, on a des droits. Et ben, des fois, si on fait pas, si on n'utilise pas ces moyens de pression, et c'est ça qui est malheureux aussi quelque part, et ben, on ne serait pas monté. Moi, je serais restée au guichet de la CAF et à la CAF, on m'aurait juste dit non, madame, c'est pas possible. Non, madame, c'est pas possible. Mmh. Ah ouais.
Tout à fait. Agir ensemble plutôt que subir. Alors, moi, ce que je propose, c'est que le mois prochain, on continue, en fin de compte, cette même émission. Voilà, parce que je crois qu'il y a,
Beaucoup à dire.
Il y a tellement à dire. Et je voudrais bien qu'avec vous, il y ait aussi un autre mec, également, qui est également cette rencontre. Et j'ai envie de dire, moi, aux hommes, debout les mecs, quoi. Debout les mecs. Voilà, le féminisme, il n'est pas uniquement féminin, en fait. Voilà.
Tout à fait.
Absolument, absolument. Voilà, donc parce que l'heure tourne, on va être obligé bien de... Il y a une émission juste après. Voilà, voilà, en direct. Donc, on va être obligé de laisser les micros, malheureusement. Mais en tout cas, j'allais dire, on va se revoir, mais on se revoit très souvent. On se voit déjà très souvent, en tout cas, on se voit surtout maintenant. Et j'invite tous les chômeurs, les précaires, les intermittents, les intérimaires, les pré-retraités, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus, qui sont dans la galère de plus en plus, à d'abord à la solidarité. Et puis on vous invite à nous rejoindre dès le mardi, le 29 avril, voilà, pour une journée nationale d'action contre ce système d'indemnisation chômage. Et on va en faire, je disais tout à l'heure, ça va être la journée de la patate. Hein. C'est-à-dire la patate, vous savez que les patates chaudes, on se les repasse très facilement de main en main. Voilà, il y aura plein de surprises pendant cette journée. Vous aurez des intermittents, vous aurez un village, vous ramenez des cordes à linge, vous ramenez des tentes, vous ramenez tout ce que vous voulez. Voilà, mais faites-le. Et puis on vous invite en second plan également le 1er mai, qui n'est pas la fête du travail, mais bien la fête des travailleurs. On insiste là-dessus. Voilà.
Et moi, je rajoute le 26, le Tchernobyl Day, parce que le nucléaire, c'est là où il y a beaucoup de travailleurs précaires aussi.
Ah, énormément.
Hein, donc à 14h, place Pagino, voilà. Le 26.
Pour le nucléaire, un de nos slogans, c'est ça va être en fait irradié à Bure ou radié à Pôle emploi.
Oui.
Il va falloir changer. Voilà, c'est ça que ça va être.
Voilà le choix qu'on nous laisse.
Eh bien, est-ce que... Eh bien, Isa,
on est libre hein, dans ses choix, quelque part,
Isa,
entre les deux.
Tu es arrivé un petit peu tard. Bien, au revoir quand même maintenant, pour l'instant.
Au revoir, ce fut un plaisir. À tout bientôt.
Nadège, au revoir et à très bientôt.
Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.
Et continue ta passion.
Ouais.
Ariel.
Et comme c'est moi le fil rouge, donc voilà. C'est moi qui termine l'émission. Je voulais dire que, écoutez, soutenez cette radio des invisibles.
Oui.
On peut pas nier, nous sommes la radio des invisibles, la radio qui a été créée il y a 35 ans pour donner la parole aux gens qui ne peuvent pas la prendre. Vous connaissez ça par cœur. Hein. Allez sur Internet ou lisez des bouquins qui parlent des radios pirates et ensuite des radios libres, vous saurez tout ça. Soutenez cette radio, même si économiquement vous ne pouvez pas donner même un euro. Soutenir la radio, c'est en parler. Et en parler, ça ne la fera pas crever. Parce qu'au bout d'un moment, si vous parlez beaucoup de cette radio, les politiques auront les oreilles qui vont se pointer doublement. C'est toujours la même chose. Force, toujours.
D'accord.
C'est le mot de la fin.
Agir plutôt que subir. Pour
voilà.
Tout. Eh bien, à tous les précaires, à tous les chômeurs, à tous les cafards, à toutes les cafardes, eh bien, on vous dit à très bientôt et bon courage. Et à très bientôt, surtout dans la rue.